Chapitre 6e. Deux procès monstres. Nous venons de voir que le patriarche Tikhon fut incarcéré sans jugement. Au contraire, on organisa des procès monstres pour juger et condamner à mort deux hauts prélats, l'un de l'Église orthodoxe, le métropolite Benjamin, et l'autre de l'Église catholique, l'archevêque Siéplaque. Aucun, parmi les innombrables procès montés contre les dignitaires de l'Église, n'a eu un retentissement aussi douloureux parmi les fidèles que le procès intenté au métropolite de Pétrograd, Benjamin. La personnalité du métropolite était d'une hauteur et d'une beauté morale exceptionnelles. Évêque suffragant, il avait été élu métropolite dans l'été de 1917 et ce fut, croyons-nous, la première application à la vie de l'Église du mode démocratique d'élection. Il fut élu à une énorme majorité et tous les ouvriers de Pétrograd, presque sans exception, votèrent pour lui. La population ouvrière et pauvre de la capitale était sincèrement attachée à ce prélat, profondément bon, compatissant, accessible, se rendant au premier appel dans les quartiers les plus pauvres et les plus éloignés de la ville pour officier en simple soutane, sans le moindre signe extérieur de sa dignité. L'église était toujours bondée les jours de ses prêches, simples, mais admirablement sincère et accessible à la masse des fidèles. Le métropolite Benjamin était étranger à toute politique. Foncièrement humain, il ne concevait pas qu'on pût refuser un objet quelconque quand il s'agissait de sauver la vie d'un homme. Dans la question du prélèvement d'objets précieux appartenant aux églises, il allait plus loin encore que le patriarche Tikhon et admettait qu'on donnât, pour venir en aide à la population, jusqu'aux objets sacrés et aux revêtements précieux des icônes. Mais il mettait deux conditions. Rien ne devait être donné autrement qu'avec le consentement librement exprimé des fidèles et à titre de don, et les institutions contrôlant les fonds ainsi recueillis devaient comprendre des représentants des fidèles. Ces vues furent très favorablement accueillies à Pétrograd par l'institution soviétique d'aide à la population souffrant de la famine. Mais une pareille politique de collaboration avec le métropolite, qui pouvait raffermir son autorité aux yeux de la population, ne pouvait être agréé des dirigeants de Moscou, qui recherchaient la guerre et non pas la paix avec l'Église. Des instructions furent envoyées aux autorités de Pétrograd, qui aussitôt modifièrent leur attitude. Une soumission sans condition fut exigée du métropolite. Après de nouvelles négociations, les autorités soviétiques firent quelques concessions. De son côté, le métropolite adressa à la population un appel où, sans rien modifier de son point de vue, il l'invitait à ne pas se départir du calme et à ne pas opposer la résistance à la force. On pouvait donc considérer l'affaire comme terminée, mais bientôt le gouvernement remettait tout en question. Le métropolite Benjamin fut accusé d'avoir, dans une pensée de contre-révolution, organisé la résistance du clergé et de la population à la confiscation d'objets appartenant à l'Église. Cette accusation ne put être étayée d'aucune preuve. Mais on groupa en une seule quelques petites émeutes sans importance qui s'étaient produites sur différents points du diocèse et on déclara qu'elles provenaient toutes d'une même source qui était l'action du métropolite. Les proches collaborateurs du métropolite et une foule de gens qu'on arrêta dans la rue pendant les désordres furent envoyés en même temps que lui devant le tribunal révolutionnaire. Un avocat très réputé, J. Gourovitch, qui est israélite, accepta avec un grand courage et malgré les dangers terribles auxquels il exposait sa liberté et sa vie, de présenter la défense du métropolite. Le métropolite fut jeté dans une prison de criminels de droit commun, mais telle était sa popularité et la vénération dont l'entourait le peuple que les autorités soviétiques n'osèrent pas disperser la foule de milliers de fidèles qui se réunirent à l'heure de son transfert de la prison au tribunal et s'agenouillèrent pour la bénédiction à l'approche de la voiture qui le transportait escorté par des gardes à cheval. C'est le 10 juin 1922 que commença le procès. Le gouvernement avait organisé une cynique et sinistre mise en scène. Le procès se déroula dans la vaste salle des concerts philharmoniques contenant 3000 places. Le public, dont la salle était toujours bondée, était, pour la plupart, composé de communistes envoyés par ordre. Au bureau, un président et deux assesseurs, jeunes gens de 24 ans qui occupaient de hautes situations dans la Tchéka, Ils étaient placés là pour obéir aveuglément aux ordres du gouvernement qui avait décidé d'avance du sort des accusés. Le principal accusateur public, il y en avait en tout quatre, était Smirnov, ancien président de la Tchéka. Les principaux témoins de l'accusation, Vevdensky et Krasnitsky, les mêmes personnages tarés dont le gouvernement se servait pour susciter le schisme dans les milieux orthodoxes. En face de cette meute, même dans cette salle si savamment composée, des applaudissements nourris éclatèrent pendant le discours de la défense. L'accusation s'efforçait surtout de prouver le caractère contre-révolutionnaire de l'action du métropolite, qu'elle accusait d'avoir conspiré avec l'étranger contre le gouvernement soviétique. Le métropolite, qui subit à lui seul un interrogatoire de 2 jours, restait devant ses juges aussi calme, aussi serein, aussi simple que l'ont toujours connu les fidèles. Son principal souci fut de défendre et de disculper ses co-accusés, alors que tout le monde se rendait compte qu'une attitude moins ferme aurait sauvé sa tête. La tâche du défenseur aurait été facile devant un tribunal ordinaire, et en fait M. Gourovitch renversa de fond en comble l'échafaudage de l'accusation. Mais il savait que le sort du métropolite avait été décidé d'avance, et dans sa péroraison, il fit appel à la sagesse politique du gouvernement. Si le métropolite périt pour sa fidélité sans borne envers la masse de ses ouailles, s'écria le défenseur, il deviendra pour le pouvoir soviétique singulièrement plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. L'expérience de l'histoire nous apprend que le sang des martyrs grandit et affermit la foi. Cet appel fut vain. À 9 heures du soir, le 5 juillet, devant une salle bondée de soldats de l'armée rouge, et où le public ne fut pas admis, le tribunal prononça le jugement. 10 des accusés, le métropolite en tête, furent condamnés à la peine de mort, les autres à la prison ou acquittés. Le métropolite Benjamin, l'archimandrite Serge, le professeur Novitsky, président de la Société des paroisses de Petrograd, et l'avocat Kovtcharov furent exécutés dans la nuit du 12 au 13 août 1922. Le gouvernement soviétique craignait que les bourreaux ne refusassent d'exécuter le métropolite. En conséquence, les condamnés furent rasés, vêtus de haillons et transportés dans les environs de Petrograd, afin de ne pas révéler aux bourreaux la personnalité de ceux qu'ils exécutaient. Les mesures de répression dirigées par le pouvoir soviétique contre l'Église ne l'ont pas été seulement contre l'Église orthodoxe, mais contre toutes les églises sans exception. L'Église orthodoxe de Géorgie a particulièrement souffert, notamment pendant l'occupation du pays par les bolchevistes. L'Église catholique, malgré l'appui que lui donnait l'opinion publique européenne et malgré la haute autorité du pape, n'a pas échappé au sort réservé aux autres confessions. Le point culminant des poursuites dirigées contre elle par le gouvernement soviétique fut le procès intenté au chef de l'Église catholique en Russie, l'archevêque Sieplak, son principal assistant, Mgr Butkevitch, et plusieurs autres prêtres catholiques. On les accusa de résistance au décret du gouvernement soviétique sur la séparation de l'Église et de l'État et sur la confiscation des objets précieux appartenant aux Églises. 2 condamnations à mort furent prononcées, celle de l'archevêque Sieplak et de Mgr Butkevitch. Les autres accusés furent condamnés à l'emprisonnement. Devant l'indignation provoquée par cette condamnation dans l'opinion publique du monde entier, le pouvoir soviétique commua en détention de 10 ans la peine de mort prononcée contre l'archevêque Sieplak, en donnant pour raison de cette mesure de clémence le fait que l'archevêque Sieplak représentait en Russie la confession catholique particulièrement opprimée sous le régime tsariste. Voici en quels termes M. Goyot, dans le livre que nous avons cité, décrit le procès et l'exécution du prélat Butkevitch. C'est au théâtre de Moscou que la justice fonctionnait. Sur la scène, à gauche, les accusés, à droite, ceux qui osaient se qualifier de juges, et derrière eux, impatients de rougir leurs mains, les gardes rouges. Mgr Sieplak, dès qu'il connut le verdict, se leva. 3 fois, il bénit la foule, et sa bénédiction, comme la pluie dont parle le psalmiste, voulait tomber sur les justes et sur les injustes. Puisque les sections communistes n'avaient en janvier demandé qu'une victime, on épargnerait Mgr Sieplak, mais Mgr Butkevitch périrait. Le père Walsh, président de la commission papale de ravitaillement, voulait lui porter en son cachot l'hostie divine et la bénédiction du pape. On l'heura, le père Walsh, on lui promit qu'à temps on l'aviserait. Les heures passaient. On ne voulut pas que le jeudi saint de Mgr Butkiewicz répétât cet autre jeudi où le Christ avait tendu à ses apôtres le pain mystique. Ce jour-là, on tirait le prélat de son cachot souterrain. On le poussait brutalement à travers un corridor obscur. Il tombait, se cassait la jambe. On l'enfermait pour la nuit, sans paillasse ni chaise, avec des criminels de droit commun. Il fallait là aussi qu'il y eût des larrons près de celui qui allait mourir. Toute la journée du vendredi saint, le père Walsh et M. McCullough, à qui nous devons un excellent livre sur ces affreuses persécutions, se tinrent proches du téléphone. Le père Walsh, de temps à autre, demandait « Puis-je venir ?» Et la réponse était « Vous serez prévenu à temps. » Vers 10 heures du soir, une sonnerie retentissait. Le père Walsh entendait du bruit, des cris, des chants avinés, puis un silence, un coup de revolver, puis des éclats de rire. Il venait d'assister à l'autre bout du fil, à l'exécution. Plus tard, un soldat rouge la raconta. Monseigneur Butkiewicz, qui ne pouvait plus marcher, avait été traîné par les oreilles jusqu'au corps de garde. En chemin, ses vêtements lui étaient enlevés. On ne dit pas si, comme ceux de son maître, ils furent joués aux dés. Une de ses oreilles s'était décollée, et tout d'un coup, devant cette locumène, s'était ouverte la salle du corps de garde, insolente de gaieté. Un coup de revolver, dans le trou béant laissé par l'oreille, avait achevé le martyr. On ne voulut pas que les restes du prélat puissent devenir des reliques. On les emporta pour être brûlés avec les corps de 9 bandits de grand chemin, et les cendres furent dispersées.